Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique, la première de la saison 2025-2026. Et on retrouve pour cette première l'équipe originelle, l'équipe de choc avec Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan. Salut Nelly.
Salut.
Et Caroline Entregue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Alors les filles, on va aller où aujourd'hui ?
Ah, écoute, on va pas aller très loin, on reste à Mende et on t'amène dans un endroit secret. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, on est arrivé, Caro, on est où ?
Alors on est ici juste au-dessus sur le coteau de Châles-de-Coste, sur la rive droite du Lot à Mende. Nous sommes au-dessus de la voie de chemin de fer dans le quartier dit de Plaisance, face à un bâtiment en peigne immense et emblématique dans le paysage mandois. Il s'agit devant nous du grand séminaire que tout le monde connaît, mais nous allons plutôt nous intéresser à un lieu plus secret qui est l'évêché. Donc là, on est face à ce grand bâtiment et à l'arrière, on trouve un immense parc fauché en terrasse, dont une partie est utilisée encore en potager. C'est un véritable enclos vert dans la ville qui s'est construit tout autour dans les années à peu près 70. Cet enclos, il s'étend jusqu'à la rue Jean de la Fontaine au nord et on peut apercevoir un petit peu cet enclos quand on sort de l'hôpital de Mende, dont il est mitoyen à l'ouest. On aperçoit une petite construction, comme un petit pavillon de jardin. Donc il faut savoir que sur ces coteaux de Châles-de-Coste étaient cultivés depuis le Moyen-Âge des vignes, mais aussi du safran, et ça jusqu'au XVIe siècle. Les terres sont relevées du chapitre de la cathédrale. Ces terres sont très bien ensoleillées, elles dominent Mende avec une vue incroyable. Et ils étaient accessibles directement depuis le pont Notre-Dame, mais on en a déjà parlé, et par la rue Monseigneur de Ligonnès, que maintenant tu connais par cœur, Ludo.
Absolument. Nelly, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce lieu ?
Oui, et pour en parler, il faut quand même que je rende à César ce qui est à César. Un grand merci à Alain Laurent, ancien archiviste, qui a fait de nombreuses recherches sur l'évêché, la construction de la chapelle pour cette visite et pour bien d'autres choses. Donc merci Alain pour toutes les recherches menées. Donc Plaisance, le mot Plaisance pourrait venir du latin médiéval plaxicium, c'est-à-dire enclos, qui comprend une maison et un jardin. On sait, d'après la notice historique de la ville de Mende, qu'il existait ici en 1650 la maison qu'habitent les missionnaires. Elle appartenait à Jacques Bressol, notaire royal du lieu d'Arzinc. Donc on sait, grâce au cadastre napoléonien du 19e siècle, que les parcelles se composaient d'une maison avec une aire à battre, une terre labourable, un jardin et un pigeonnier. Cette maison est celle de Louis Charpentier, maire de Mende, dans les années 1832. Et en 1852, cette maison est vendue à un chanoine de l'église cathédrale de Mende, Jean Esparbier.
Alors si je comprends bien, Nelly, on va remonter au 19e siècle pour cette visite ?
Exactement, ouais. On remonte deux siècles plus tôt, au 19e, période marquée dans les pays catholiques occidentaux, et notamment donc en France, par un nouvel élan religieux qui conforte la foi traditionnelle face aux doutes hérités du siècle des Lumières et de la Révolution, et aussi à l'accélération de l'exode rural et de l'urbanisation qui favorise le déracinement et le déclin des pratiques religieuses. Et donc pour sensibiliser les foules, l'Église privilégie à ce moment-là une dévotion démonstrative alimentée par la splendeur des fêtes liturgiques et un climat de miracle. Et dans la même lignée, on assiste à une fièvre constructive d'église jamais égalée depuis le Moyen-Âge. Donc on va voir pousser partout en France des bâtiments religieux, principalement des églises, qui vont marquer profondément le paysage, comme c'est le cas ici à Mende, où on va en reparler plus tard avec Caro, où on va construire, on va voir sortir de terre plusieurs bâtiments au 19e siècle, fin 19e siècle.
Et comme le parle Nelly, quand on parle d'architecture 19e, là nous sommes devant le grand séminaire, face à une architecture typique du 19e siècle. On a une architecture qui est très ordonnancée, qui est basée sur la symétrie. Donc un grand bâtiment avec une façade principale de plus de 70 mètres de long, deux ailes perpendiculaires et sur le côté est, une chapelle. L'ensemble de cette construction fait plus de 135 mètres de long, donc assez pharaonique. C'est un bâtiment qui a été construit pourtant en 3 ans, puisque la chapelle a été inaugurée en 1902. Donc ce bâtiment, comment le décrire? Il est sur 4 niveaux, avec au rez-de-chaussée une série d'arcades qui créent comme une galerie où l'on circule le long de cette façade sud. Au centre, on a un volume pignon qui vient se décrocher un petit peu de la façade. C'est un archétype architectural qu'on va retrouver dans pas mal de constructions assez fonctionnelles et stéréotypées du début du 19e. Les églises, qu'on parlait Nelly, on va retrouver également les mairies, les gares, tout ce type d'architecture début 19e qui reprend des codes néoclassiques.
Et Nelly, avant le 19e siècle, il n'y avait pas de séminaire à Mende ?
Si, bien sûr, il existe un séminaire à Mende depuis 1667. Alors, ce séminaire va changer de nombreuses fois de lieu, en fait, hein, avant de venir finir sa vie ici, on va dire. Et donc, en 1667, il est construit donc, au bas de la ville de Mende. Il va changer au fur et à mesure de lieu. Et puis, au 19e, donc, est construit ce grand séminaire qui va accueillir les séminaristes jusqu'en 1967.
Et pourquoi il s'arrête en 1967 ?
Il s'arrête par faute de vocation, en fait. Hein. L'établissement ferme en 1967, puis est occupé par un lycée professionnel jusqu'en 2001, le lycée de Plaisance, pour les Mendois qui l'ont connu.
Caro, quand je regarde ce bâtiment, ça me fait penser un peu aux certaines parties du lycée Chaptal Saint-Lien.
Ben exactement, on est sur la même architecture, puisque ce sont les mêmes dimensions que le lycée Chaptal, la même architecture un petit peu en peigne. Donc le lycée Chaptal lui a été construit en 1877, donc avant le grand séminaire, sous l'impulsion de l'évêque pour en faire un petit séminaire. Voilà, mais contrairement à ce grand séminaire, eh ben lui, il est retourné à l'État en 1905. Et donc, comme le disait Nelly, hein, dans ces années 1800, fin du 19e siècle, on va retrouver de nombreux bâtiments religieux qui vont avoir cette architecture assez typique et souvent sur la même base de plan, qui va être assez efficace, assez reproductible. C'est ce qu'on va trouver notamment sur les églises.
Juste pour donner quelques chiffres pour avoir un ordre d'idée, donc rien que sur le Pays d'Art et d'Histoire, on a inventorié 18 églises du 19e siècle sur 28 communes. Et on a de nombreuses correspondances dans l'architecture, dans l'ornementation, dans ces églises-là.
Donc Ludo, ce qu'on te propose, c'est de te déplacer un peu dans ce grand enclos, puisqu'on m'a dit, il n'y a pas que le grand séminaire, il y a d'autres bâtiments au sein de ce site de Plaisance qui appartient à l'évêché.
Allez, allons-y.
Donc là, Ludo, on se retrouve dans le fameux lieu dit de la maison de Plaisance, cette fameuse maison d'origine du séminaire. Alors on est à droite du grand séminaire, on est de l'autre côté de la rue Jean de la Fontaine. On se retrouve devant ce bâtiment assez imposant, hein, qui est sur une forme carrée, avec un toit à 4 pans, de très très belles ouvertures sur les 2 premiers niveaux, avec des belles fenêtres sculptées et encadrements sculptés autour des portes. On est ici devant une grande terrasse avec une vue magnifique sur Mende, sur la cathédrale, sur le Lot qu'on entend juste derrière. Et bien sûr le pont Notre-Dame hein, du 12e dont on parlera tout à l'heure, qui était le chemin d'accès historique à cette fameuse maison de Plaisance. C'est par ici qu'on accédait et ensuite par la rue de Ligonesse.
Comment tu définirais pour nos auditeurs et auditrices ce qu'est une maison de Plaisance ?
Alors une maison de Plaisance, c'est une maison dans laquelle on se détend, une maison de vacances en quelque sorte. Hein, voilà. C'est le synonyme un peu de la maison de Plaisance, donc d'où la question de la grande terrasse, l'ensoleillement, la luminosité avec de grandes ouvertures.
Alors peut-être qu'on peut revenir sur l'histoire de la maison de Plaisance. On sait qu'en 1841, la veuve du maire, M. Charpentier, vend à 5 missionnaires cette demeure. Et donc ces cinq missionnaires vont créer une société civile. Il s'agit de Louis Jaffuère, Étienne Vidal, Antoine Astier, Charles Moret de Charret et Pierre Roux. Il est convenu que la propriété appartiendra en totalité aux derniers survivants. À cette époque, la propriété comprend une maison avec citerne pour l'eau, un pavillon, un jardin, un parterre, un pré et un champ. À l'initiative du père Jaffuère, le supérieur des missionnaires diocésains entre 1830 et 1876, les bâtiments vont être agrandis pour y établir la communauté des missionnaires. La maison de vacances de l'ancien maire est donc devenue trop petite pour loger les missionnaires. Et les travaux du grand séminaire commencent alors. Ils sont financés par des quêtes effectuées lors des missions diocésaines et des dons. Et puis après, donc en 1894, le père Almeras, ancien curé de Luc et dernier survivant de la société civile, vend Plaisance au père Farge. En 1906, Plaisance est vendue à Jacques Pioux, ancien député. Il garde le bien jusqu'en 1919. Enfin, à nouvelle vente à l'abbé Clément Chaptal, missionnaire à l'époque. Et c'est à cette période que les missionnaires démobilisés viennent occuper Plaisance. Leur nombre diminue et leur activité aussi à partir des années 70. Caro a décrit le bâtiment, on est toujours devant le bâtiment et la chapelle est édifiée donc à côté, accolée au bâtiment principal. Cette chapelle est édifiée en 1889, encouragée par Monseigneur Coste, dont on va reparler lorsque l'on sera à l'intérieur. Les plans sont confiés au chanoine Laurent, bien connu puisqu'il travaille également sur plusieurs églises donc de la fin du 19e siècle, notamment à Pelouse et Bellevesée. Cette chapelle a été faite uniquement pour les usages privés de l'évêque et n'est pas ouverte d'habitude au public. C'est un privilège que de pouvoir la visiter aujourd'hui ensemble, Ludo. Voilà. Bon, ben on rentre.
Allez, on va aller à la fraîcheur de cette petite chapelle. Waouh, exceptionnel.
C'est assez exceptionnel, effectivement. On ne s'attend pas à découvrir ça derrière la porte.
Oui, donc pour décrire un peu pour nos auditeurs cette chapelle, on est vraiment sur une dimension assez réduite de chapelle. Hein, c'est uniquement pour l'évêque. Donc on a une chapelle qui mesure environ 10 mètres de long sur 6 mètres de large. De part et d'autre du chœur, on va voir deux chapelles de forme pentagonale. Nelly nous en parlera tout à l'heure, mais une dédiée à Saint-Joseph et l'autre à la Vierge Marie. Et au-dessus de l'autel, une petite abside avec une très grande statue du Sacré-Cœur de Jésus qui protège cette chapelle. On a huit colonnes ornées de chapiteaux floraux qui reposent sur des croisées d'ogives. On est sur une architecture finalement assez classique pour le 19e, assez sobre, mais qui est vraiment mise en valeur, Nelly nous en parlera tout à l'heure, par tout un décor très riche et diversifié.
Donc effectivement, pour rebondir ce que disait Caro, on est devant une architecture très caractéristique hein, des églises du 19e siècle. Avec donc une architecture sobre, comme elle le disait, une chapelle couverte donc sur croisée d'ogives et effectivement extrêmement bien adaptée aux besoins liturgiques de l'évêque par des dimensions donc voilà à taille humaine, on va dire. Et comme elle le disait aussi, ce qui fait la caractéristique de cette chapelle, c'est son décor peint. Qui est un décor couvrant. Donc là, pour nos auditeurs, il faut s'imaginer donc une chapelle entièrement peinte, du plafond jusqu'au sol, même le sol hein, a de la polychromie. Et on a très très peu d'exemples comme ça en Lozère, encore moins à Mende, pour en citer que deux et les plus connus en Lozère, donc Saint-Saturnin de Bédouès ou encore Villefort, hein, pour ceux qui connaissent ces secteurs-là. On a aussi également de la même période un ensemble de vitraux qui ont tous été conservés du 19e siècle. Ces vitraux sont l'œuvre de Monsieur Paul Chalon, artiste verrier de Toulouse, et sont dus en majeure partie à la générosité de Monsieur Chaptal, professeur au Grand Séminaire. Alors peut-être, on va passer un peu vite, mais on peut s'arrêter quand même devant certains vitraux. Donc, si cette chapelle est dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, on a donc dans la chapelle, l'absidiole, on va dire, dans l'absidiole nord, pardon, un vitrail représentant Saint Joseph. Il fait face à un vitrail représentant la Sainte Vierge. Et enfin, dans la nef, nous avons donc les saints patrons du diocèse, donc Urbain V, Saint Privat et Saint Énimie, face à Saint François Régis, Saint Martial et Saint Antoine de Padoue.
On peut également voir un vitrail supplémentaire au-dessus de la tribune. On ne l'a pas décrit, mais dans cette petite chapelle, il y a une tribune. Et là, on peut voir l'armoirie de Mgr Julien Coste. C'est une armoirie avec quatre cœurs sacrés surmontés d'une couronne.
On retrouve aussi les armoiries de Mgr Coste dans la nef, sur le mur routereau nord.
Pourquoi Saint-François-Régis, Saint-Martial et Saint-Antoine de Padoue ?
Alors, Saint-François-Régis et Saint-Antoine de Padoue sont là pour rappeler aux missionnaires de grands exemples, oui, de grands exemples de missionnaires et d'hommes d'église à suivre, en fait. Voilà.
Et Saint-Martial ?
Saint-Martial est, aussi un patron du diocèse, à côté de Saint-Privat, Urbain V et Saint-Énimie.
On voit aussi la statue de Jésus derrière, au-dessus du cœur même, qui est sous une coupole extérieure, séparée par une vitre. Je ne sais pas si c'est commun, Caro, si tu as déjà vu ça?
Non, en tout cas, à ma connaissance, en Lozère, on n'a pas ce dispositif architectural. Ce qui est très intéressant, c'est que cette petite abside, elle vient au-dessus de la sacristie et on accède par une toute petite trappe à cette mini-chapelle, si je puis dire.
Ce qu'on peut rajouter pour les auditeurs, c'est qu'on a une ouverture dans cette petite absidiole qui est donc ménagée dans le cœur de la chapelle. Et donc cette ouverture, permet d'éclairer la statue par le côté sud et donc lui donne une dimension peut-être un peu plus surnaturelle, je dirais. En tout cas, elle met très en valeur la statue du Sacré-Cœur de Jésus.
On l'a dit, cette chapelle est très colorée, beaucoup de décors. Est-ce que vous pourriez décrire un peu ce qu'on y voit sur ces murs ?
Oui, alors rapidement déjà, on sait que qu'on doit les peintures au peintre Gautier, qui est un peintre originaire mandois. Et donc on a un décor entièrement couvrant, avec des motifs floraux, des rinceaux, des fleurs, des frises géométriques, des fleurettes, voilà, beaucoup de motifs décoratifs, des angelots aussi. Et donc, ce décor peint vient souligner l'architecture du bâtiment, vient souligner donc les ogives, les colonnes engagées, les chapiteaux, dans des tons bleu, prune, ocre, rouge. On a une palette de couleurs assez riche et variée, une palette de motifs extrêmement diversifiée aussi, ce qui donne une dimension qu'on a peu l'habitude de voir, hein, puisqu'on a eu cette mode des églises pierre à nu dans les années 70 qui a malheureusement détruit pas mal de décors peints. Et là, c'est vraiment une chance inouïe d'avoir conservé ce décor du 19e siècle qui est effectivement en excellent état.
Caro, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mobilier ?
Ben, tout comme les décors, le mobilier est assez soigné. On a un autel principal et un chœur en marbre avec des bas-reliefs toujours du Sacré-Cœur de Jésus. Et de part et d'autre, par contre, dans les chapelles, le mobilier est en bois, mais lui aussi avec des rehausses dorées et des décors néo-gothiques.
On a effectivement un ensemble très homogène du 19e siècle ici, entre l'architecture, le décor peint et le mobilier. Vraiment, on a un ensemble assez exceptionnel par son homogénéité.
Avant de ressortir, peut-être, je vois quatre portraits qui on retrouve sur ces tableaux.
On a effectivement une petite galerie de portraits sur... la façade, enfin l'intérieur de la chapelle côté occidental. Et donc c'est une galerie de portraits des anciens évêques de la ville de Mende. Donc on retrouve Piancourt, Guillaume Durand, de La Rovère et de Castellane.
Donc voilà pour cette chapelle. On va terminer cette première émission de l'année 2025-2026. Une actualité liée à cette chapelle, Caro ?
Mais deux actualités. On va commencer d'abord par le séminaire, hein, qui est le début de notre visite. Donc le grand séminaire est en travaux. Une partie a été terminée en 2015 et encore aujourd'hui, une autre partie est en travaux pour pouvoir rénover l'ensemble du bâtiment.
Autre actualité, donc la chapelle a bénéficié d'un nettoyage complet de ses peintures puisqu'il y avait un chauffage au fioul ici qui avait entièrement noirci tous les murs et toutes les peintures murales. Et donc cette restauration a eu lieu en 2024. Et donc on va faire visiter cette chapelle dans le cadre des Journées européennes du patrimoine le 20 septembre. On vous montrera les photos avant restauration, c'est assez bluffant.
En actualité, on peut aussi signaler donc le nouvel évêque qui a été nommé le 20 mai 2025, qui sera Monseigneur Jean Pelletier, qui arrivera début septembre.
Pour terminer, une anecdote pour Brillant Société ?
Ah ouais, Caro, elle va te faire un petit quiz.
Mais comme c'est la rentrée, on a deux anecdotes. Et une pour toi, Ludo. À ton avis, quel est le juste prix de la maison dite de plaisance ? Petit indice pour toi, c'est des francs. Et on était aux alentours des années 1840.
En 1840, des francs, je dirais un prix énorme pour l'époque, 20 000 francs.
Pas loin, un petit peu moins.
15 000 ?
Allez, 16 700 francs et quasiment autant de travaux pour cette maison de plaisance.
Autre petite anecdote pour nos auditeurs et les futurs visiteurs qui viendraient se balader ici, ils pourront voir une petite trace d'un épisode assez douloureux de ce bâtiment. Donc on retourne en 1905, époque, Ludo, de la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, en 1905, les forces de l'ordre vont crocheter la porte d'entrée. Devant le tribunal, l'Église parvient à prouver que la construction a été financée par la fortune personnelle de l'abbé, Dupont de Liconnèse et des dons. Il y a donc aujourd'hui une plaque commémorative de cette infraction qui a été retrouvée durant les travaux.
Bien, merci beaucoup pour cette visite. Une dernière question, Nelly, pour les Journées européennes du patrimoine du 20 septembre, il faut s'inscrire pour pouvoir visiter cette chapelle ?
Oui, il faut s'inscrire, hein, c'est sur réservation obligatoire puisqu'il n'y aura que deux visites et chaque groupe sera limité à 20 personnes. Donc, pas hésiter à appeler au Pays d'Art et d'Histoire. Donc ça sera le samedi après-midi. Et le dimanche, on vous retrouve à Pelouse, on reste au 19e siècle, on reste dans l'architecture religieuse pour vous faire découvrir l'architecture et l'histoire de cette église de Margeride.
Merci beaucoup Nelly. Caro, on va aller où le mois prochain ?
Alors Ludo, pour le mois de l'architecture, on va reprendre la DeLorean parce qu'il faut qu'on rende visite à deux, trois confrères.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.